Le 20 juin dernier, Louis, 17 ans, a été tabassé à mort à Narbonne. Les images sont parties sur les réseaux sociaux. Les agresseurs ont été retrouvés. Depuis, ils sont en détention provisoire. Cette histoire a provoqué beaucoup d'émoi, beaucoup de colère, beaucoup de réactions politiques. Maxime, vous êtes du côté de Cazillac, dans l'Aude, et vous avez recueilli un témoignage exclusif. Vous avez rencontré la mère de l'un des meurtriers présumés.
Oui, ça peut surprendre qu'elle veuille prendre la parole, mais elle l'a voulu tout de suite, dès qu'on a sonné chez elle avec Bastien Dufour. Elle nous a dit « Je vous attendais, je veux parler, je veux le faire à visage découvert », alors même qu'elle reçoit des messages de menaces depuis cette histoire. Mais elle a voulu assumer ce qu'elle disait, et c'était très fort et très surprenant, puisque vous le disiez en introduction, elle renie son fils. Écoutez-la.
C'est plus mon fils. C'est plus mon fils. Et je le bannis complètement de... C'est pas possible. Je cautionne pas ce genre de fait, ce genre d'acte. C'est... Comme bien même il soit à l'ASE, c'est pas possible. Je me sens mal en tant que maman parce que le mauvais rôle, du coup, dans tout ça, puisque je reste la mère d'un assassin, je vis pas bien, j'en fais des cauchemars toutes les nuits. Je veux juste apporter mon soutien à la famille de Louis et à Louis. Je suis un petit peu obligée de me cacher parce que forcément, il y a beaucoup de colère, beaucoup de haine envers les personnes que je peux comprendre.
Il faut imaginer qu'au moment du meurtre, son fils, qui est normalement placé, était en fugue. Et il a échangé avec elle juste le lendemain du meurtre. Elle nous a fait écouter des messages vocaux. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait. Il lui envoyait des messages où il disait « Voilà, j'ai fait quelque chose de grave, mais je t'en parlerai pas, tu me croiras pas. » Elle a fini par contacter la police. Écoutez-la.
J'ai appelé le commissariat pour le déclarer en fugue. On m'avait dit de passer, uniquement pour la fugue. Et plus tard dans l'après-midi, j'ai une commissaire qui m'a appelée, une enquêtrice, qui m'a dit, voilà, j'ai tout enclenché, elle m'a demandé de faire tous les screens. Je sais ce que j'ai fait, d'où il était. J'ai vraiment tracé, je les ai aidés, quoi. Et c'est quelques heures après que j'ai su qu'il s'était passé quelque chose de grave, sans savoir. Donc j'étais perdue dans l'incompréhension, je ne savais pas. J'ai rien lâché. À chaque fois qu'elle demandait quelque chose, j'étais avec la police. Et c'était dur parce que, enfin, on ne sait pas ce qui se passe dans ces... On ne sait pas. C'est juste que quand je l'ai contacté, ma progéniture, encore une fois, sans savoir ce qui se passait, était tellement serein, ça faisait peur. Ça faisait peur, sachant qu'il savait déjà ce qu'il avait fait.
Voilà, vous l'entendez, aujourd'hui, elle dit « ma progéniture est plus mon fils ». Elle se présente elle-même comme la maman de l'assassin. Et même si elle ne veut pas fuir ses responsabilités, elle est prête à l'assumer. Elle explique aussi que ce fils, elle ne l'a pas élevé. Écoutez-la.
Alors malheureusement, j'ai perdu 16 ans parce que j'ai fait un déni de grossesse en ce qui me concerne et j'ai fait une psychose puerpérale. Donc c'est une dépression postpartum sévère quand j'étais jeune. J'avais 15 ans et demi. Et en fait, on m'a fait passer pour folle pendant des années. J'ai rien pu avoir, ni droit, ni... J'étais pas comme, en fait, ça commençait ici. Ce qui viennent les week-ends, les vacances, et... On m'a jamais, en fait... On m'a toujours enfoncé, ça, c'est sûr. Donc, j'ai jamais pu faire ce que je voulais, ce que j'aurais aimé faire avec lui. Ça n'excuse pas, quand même, le geste qu'il a fait, qu'ils ont fait... Et en tant que maman, ce qui arrive à la famille de Louis, c'est pire.
Elle veut que son fils soit sanctionné très durement. Elle sait que l'enquête, l'instruction va encore durer. D'ailleurs, la semaine dernière, quand il était déféré, elle a été au tribunal et en entendant les débats, elle a appris des détails atroces sur ce que ne lui avait pas dit son fils.
Maxime Brandstetter avec Bas...
de Louis en train de se faire complètement lâcher. Il a mis des coups à la tête et il a reconnu. Il n'y a pas de mots à dire aux parents parce que, enfin, ils ont ôté la vie de leur enfant. Il n'y a rien de pire pour une maman et j'irai jusqu'au bout avec eux. Et je veux que justice soit faite. Et je ne laisserai rien passer non plus.
Aujourd'hui, elle nous a même dit qu'elle aimerait pouvoir participer aux marches blanches de ce week-end en hommage à Louis. Mais on lui a déconseillé, notamment la police, de par son rôle de mère, c'est trop risqué pour elle.
Maxime Brandstetter, interview exclusive avec Bastien Dufour, donc à Cazillac dans l'Aude, interview de Laetitia, la mère de Maxime, 17 ans, Mathias, 17 ans.
Nicolas Dupont-Aignan est avec nous ce soir. Bonsoir, maire de Hyères, candidat Debout la France à l'élection présidentielle. C'est assez rare d'entendre une mère d'un assassin présumé dire « Moi, mon fils, je veux qu'il prenne perpète, je n'assume pas ce qu'il a fait. » En plus, son fils, non seulement a participé au lynchage, mais il a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction ?
Bah, comme vous tous, je suis ébahi. Voilà, c'est un naufrage, c'est terrible. Enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour la famille de Louis, il n'y a pas de mots pour cette famille. Et ce que je retiens aussi, au-delà de l'émotion, parce que qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce que je retiens, je regardais avant l'émission parce que je me posais des questions. Et l'aide sociale à l'enfance, vous savez, qui est en situation dramatique en France. Il y a 400 000 enfants qui sont traités, entre guillemets, qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Et je voyais un chiffre, 2/3 des enfants, des jeunes, qui sont incarcérés en centre de rétention, ont fait un parcours, ont été suivis par l'aide sociale à l'enfance. 50% des mineurs qui ont eu des affaires pénales sont issus, ont été suivis à l'aide sociale à l'enfance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un énorme problème dans notre pays qu'on n'a pas traité, que personne n'a vraiment traité, qui est le débordement total de ces services d'aide sociale à l'enfance, qui sont l'école du crime, quelque part.
Financés par les départements.
Financés par les départements qui n'appliquent pas les lois de la République. C'est incroyable.
C'est-à-dire
qu'il y a eu une loi, j'ai regardé, 2007, 2016, 2022, il y en a une autre en préparation. Mais comme il n'y a pas les mêmes crédits, pas le même suivi, ajoutez à cela les mineurs isolés venant de l'étranger, 40 000. Qui se sont surajoutés, des foyers débordés. Il y a un rapport extraordinaire d'une députée En Marche et d'une députée socialiste. Foyers de prostitution, drogue, proxénètes aux abords des foyers. Je veux dire.
Oui, parce qu'un éducateur de l'ASE n'a pas les moyens légaux d'empêcher un mineur de sortir si le soir il veut sortir.
Mais c'est très compliqué. Alors il y a une nouvelle loi en préparation qui va arriver.
Parce que ce ne sont pas des prisons.
Mais le problème de fond, c'est que la protection de l'enfance en France n'est pas suivie, n'est pas traitée. N'est pas à mesure du défi. Alors ça n'excuse rien, et c'est pas pour légitimer ce genre de comportement. Il faut aussi des sanctions très sévères, et ça je peux vous en parler, parce que vendredi dernier, j'ai convoqué une famille dans ma mairie, et je fais des convocations de mairie de mineurs avec leur famille pour les rappeler à la loi. Mais ce n'est pas des cas comme ça.
Ce jeune a 17 ans, il sera jugé comme un mineur, sauf si l'excuse de minorité saute.
Oui, mais il faut tout revoir, il faut tout revoir, mais... On peut dire sur un plateau, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Quand on voit ce type de situation, on n'est que plein d'humilité. Justement, il faut traiter la protection sociale, l'aide sociale à l'enfance, et il faut traiter la sanction immédiate, proportionnée, rapide, dans des établissements adaptés.
Justement, parce que cette violence des mineurs aujourd'hui, violence extrême, elle choque les Français. C'est ce qu'on va voir avec vous, François Gapillan. C'est un sondage pour BFM TV qui sonne comme une espèce de signal d'alarme.
Absolument. Et bonsoir à tous. On peut parler, je crois, de résultats très tranchés. Ainsi, regardez, plus de 8 parents sur 10 reconnaissent être inquiets pour la sécurité de leurs enfants. C'était déjà le cas il y a un an, mais c'est 4 points de plus encore qu'il y a un an. Dans des proportions similaires, le sentiment extrêmement puissant que la violence des mineurs augmente fortement dans notre pays. S'agissant du meurtre de Louis, 17 ans à Narbonne, les sondés y voient là aussi très majoritairement l'exact inverse d'un phénomène marginal, soit le reflet d'une montée réelle de la violence des mineurs. Quelle cause, quelle solution à présent pour les causes ? Pas de doute, pour 6 Français sur 10, c'est la démission des parents, mais aussi le manque de sévérité de la justice. D'où une volonté très claire du recours, presque du retour, dirais-je, à l'éducation comme piste prioritaire, à l'autorité et à une plus grande sévérité de la justice. Une large majorité de Français se dit également favorable à la suppression du principe d'excuse de minorité, en particulier pour les mineurs de 16-17 ans. Et puisque les parents sont pointés du doigt, dans ce sondage, et ce sont les Français évidemment qui les pointent du doigt, à la question faut-il sanctionner les parents, plus de 8 Français sur 10 répondent par l'affirmative. Des Français que l'on pourrait penser défaitistes, pas forcément. Regardez cette occurrence-là, 7 sur 10 qui restent convaincus qu'il est possible de réduire fortement la violence des mineurs, à condition bien sûr de déployer les moyens nécessaires et de prendre les bonnes mesures.
Merci François Gapillan.
Docteur Jacques Léna, vous êtes pédopsychiatre, bonsoir. Les jeunes sont plus violents qu'avant ?
Je ne connais pas les statistiques exactes, mais je pense qu'ils ne le sont pas beaucoup plus. Je pense que les réseaux sociaux, les chaînes en continu, etc., la surinformation, si on peut dire, et l'information permanente, donnent beaucoup de relief à ces histoires-là. Regardez le traitement médiatique qui avait été donné à l'affaire du petit Grégory il y a quoi, 40 ans à peu près, hein, on voit que ça avait été une histoire terrible qui avait beaucoup marqué les Français, etc. Mais le traitement médiatique était assez différent de ce qu'il était à l'époque. Donc je pense que c'est très difficile de comparer ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'écho qu'ont les événements dramatiques comme celui dont on parle aujourd'hui n'est plus le même.
Oh, y a pas que ça. Il y a quand même des jeunes qui lynchent un autre gamin et qui le filment.
Ça, c'est nous.
Ils mettent ça sur les réseaux sociaux.
Mais voilà.
Qui tapent dans la tête. Qui tapent dans la tête, en sachant aussi qu'ils vont faire mal, qu'ils risquent de tuer, enfin.
Bien entendu. Mais est-ce qu'il y avait moins d'enfants lynchés à l'époque ou plus? On ne sait pas. Parce que, à l'époque, ça n'avait pas l'écho que ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On ne pouvait pas les filmer. Donc, si ça se produisait, ça faisait le journal local, c'était dramatique, exactement aussi dramatique que ça l'est aujourd'hui. Ça ne prêtait pas à la discussion qu'on peut avoir
qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour filmer le lynchage et ensuite le mettre sur les réseaux sociaux, s'en aller et revenir ensuite refilmer le gamin qui est par terre?
Il faudrait leur poser la question, mais à mon avis, ça les fait exister, ces enfants qui n'existent pas. Qui n'existe pas pour l'État, qui n'existe pas
pour leur famille,
ou très mal pour les raisons. Regardez, cette mère de famille qu'on vient de voir, quelle est son histoire? Déni de grossesse, psychose perpérale, ça veut dire quoi?
Mère à 15 ans. Hein.
Mère à 15 ans, qui plus est. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un déni de grossesse? C'est une femme qui est enceinte de 9 mois, vous voyez le tableau, hein, et quand on la met devant une glace, en lui disant, t'as grossi un peu quand même, il n'y a pas quelque chose. Il dit, oui, j'ai pris un peu de poids, etc. Psychose puerpérale, ça veut dire que la naissance de l'enfant lui fait sauter tous les plombs. Hein? Parce qu'une psychose puerpérale, c'est une pathologie très grave qui rend une mère incapable provisoirement de s'occuper de son enfant.
Du coup, son enfant se retrouve dans un foyer?
Pas toujours.
Là, c'était le cas.
Dans les bons cas, vous avez dans l'entourage quelqu'un qui va
prendre
le relais maternant. Ça peut être le père, bien souvent, qui le fait bien. Ensuite, ça pose des problèmes parce qu'il renonce ou pas à ce rôle maternant. Enfin bon, c'est des situations compliquées. Quand c'est une fille de 15 ans qui a son enfant dans ces conditions-là, l'enfant, il n'existe pas. Parce que, en face d'une mère en psychose puerpérale, qu'est-ce qu'elle dit quand on lui amène son enfant, qu'on lui dit, tiens, on t'a amené ton bébé? Elle dit, c'est qui celui-là? Il n'existe pas à ses yeux comme sujet, comme personne.
Ce qui explique la violence ensuite de l'enfant.
Alors, allez-vous construire une personnalité quand vous avez vécu des choses comme cela? C'est pas simple. Et ça appelle, si demande il y a, des soins très lourds, très spécialisés. On n'en est pas là. On est à rendez-vous au CMP local, au centre médico-psychologique, à la consultation de psychiatrie de l'enfant, hein, ou de psychiatrie de l'adulte, 6 mois pour avoir un rendez-vous. Oui. Hein, téléphoner au CMP de Narbonne, demander un rendez-vous pour votre enfant si vous voulez faire l'expérience. Vous aurez un rendez-vous dans 6 mois, vous verrez un psychiatre une fois tous les 2 mois, et vous verrez une psychologue qui a été formée avec 6 mois de stage au cours de ses études. Voilà la situation.
Mais on voit quand même, Maître, que les Français veulent plus de sévérité, et notamment, ils veulent faire sauter l'excuse de minorité. Ce jeune en question, hein, l'un des 5, il a 17 ans. Il y en a qui sont majeurs, qui ont 19 ans, d'autres qui ont 17 ans. C'est-à-dire, celui qui a 19 ans risque la perpétuité, hein, puisqu'il va être jugé pour assassinat. Celui de 17 ans, non. À 2 ans près, ça sera pas du tout la même histoire.
À quelques mois près, même.
Même à quelques mois près, oui.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de nécessité à faire sauter l'excuse de minorité. En réalité, le juge, il a le droit de faire sauter l'excuse de minorité.
Ils le font très rarement.
Si les faits sont graves et si la personnalité du mineur s'y prête. Donc, le pouvoir est entre les mains du juge. Et en l'occurrence, s'il y a une cour d'assises des mineurs, il y a des jurés. Donc, il y a des citoyens qui jugent, qui peuvent faire le choix de aller au-dessus et de retirer l'excuse de minorité, tout simplement.
Ce qui est très rarement fait, vous le savez bien.
Très rarement.
Autant je pense qu'il y a un vrai problème de protection de l'enfance, autant je pense aussi que ce que je constate, et moi je le constate en tant que maire, c'est la montée de la levée de tout interdit. Je vais vous donner un exemple. Cette nuit, ma police municipale a arrêté 3 jeunes, 16 ans, qui allaient brûler une maison. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de montée.
Ils voulaient brûler une maison, mais pas avec les habitants dedans.
Ils savaient, on ne sait pas.
D'accord.
Mais ils avaient amené des bidons et tout, ils voulaient incendier.
16 ans.
16 ans, on les a arrêtés grâce à la vidéoprotection et la patrouille a été les arrêter. Bon, 16 ans. La semaine dernière, j'ai eu encore, dans une ville plutôt tranquille.
Dans
l'Essonne, qui est une ville où il n'y a pas des meilleures en termes de sécurité. Donc, ce qui nous surprend le plus, moi, en tant qu'élu local, c'est la levée de tout interdit. C'est ça qui est nouveau. Et moi, je pense qu'il y a une responsabilité, certes, des parents. C'est pour ça qu'on supprime, moi, les aides sociales facultatives de la commune. Je réunis la famille. Et ça a marché. J'ai un jeune, un jour, qui est revenu, qui était militaire et qui a dit « Vous nous avez sauvés ».
Mais quand vous dites la levée tous les interdits, ça veut dire quoi, en fait?
Ça veut dire que, je vous donne un autre exemple. Je croise un jour des jeunes. Il y en a un qui a une barre de fer. Ils me disent « Bonjour, monsieur le maire », très poli. Je lui dis « Vous faites quoi avec la barre de fer ? On va buter un copain ».
Ah bon?
On va buter un copain.
Et vous le dites à vous?
Il me le dit comme ça. Donc, si vous voulez, ce qui est le plus surprenant, c'est que, et c'est pourquoi les Français ont peur. Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, il peut y avoir un acte irrationnel dans la rue, à 15h, à 18h, dans le métro, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et moi, je pense qu'il y a une responsabilité écrasante de l'absence de gradation de la justice. Dès la première infraction, même mineure, il faut une sanction, comme en Angleterre, avec des établissements spécialisés. Et vous restez 8 jours, mais le jeune sait qu'il y a une sanction. Or, aujourd'hui, j'ai fini, vous avez 50 sanctions pénales pour des jeunes qui ne vont jamais être dans un centre fermé. Et quand ils ont les 18 ans, alors là, ça leur tombe d'un coup. Ce qui fait qu'à aucun moment, il y a eu, à un moment, une limite, que ce soit à l'école ou dans la société.
Il y a
aucune
des jeunes
limite.
Qui sont envoyés en prison, il y a des établissements pour mineurs.
Mais
il y a
j'en ai visité à Villepinte, il faut aller voir Villepinte, c'est gratiné.
J'y suis régulièrement.
Vous avez vu l'état aussi, de la prison de Villepinte?
Oui, mais l'état des prisons françaises.
Oui.
Bien sûr.
Et c'est pourquoi je demande la création de 40 000 places. C'est une honte à Villepinte.
Mais moi, j'ai pas
on
le sentiment.
On sent la fumée de cannabis quand
on
visite Villepinte.
Mais il y a pas levé des interdits pénaux.
Enfin, mais si.
Non.
Mais il y a quantité d'actes qui ne sont jamais punis.
Mais quelle loi assouplirait les peines contre les mineurs?
Non, mais avant d'envoyer un mineur en prison, peut-être qu'il faudrait déjà une sanction, une première sanction.
Excusez-moi.
Mais les juges ont le droit de sanctionner au premier acte. Hein.
Mais ils le font pas.
Ils le font rarement, vous
le savez. Ils le font pas.
On a ça dépend des juges. Il y a des mineurs qui sont sanctionnés directement.
C'est une minorité. Mais c'est inimaginable le nombre d'actes graves. L'affaire est classée avant même d'être.
Mais on parle d'exemple. Moi, j'ai défendu un mineur pour violence aggravée qui a fait 2 ans de prison.
Quel âge?
Et il avait 15 ans. Voilà.
Oui. C'est extrêmement rare.
Voilà. Ça arrive. À
oui,
Paris,
mais la question, c'est la dissuasion.
Mais non, mais de dire que ça n'arrive jamais, ça n'est pas
ça. Ça arrive extrêmement rarement.
Il faut rappeler qu'une dérogation au principe de cette excuse de minorité avait été portée dans un texte par Gabriel Attal, un texte qui avait été voté au mois de mai 2025. Ce texte, en tout cas, cette mesure, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel l'an dernier. Et au début de cette année, et le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux se sont dit à nouveau favorable à ce qu'il puisse y avoir des dérogations à ce principe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de traduction législative.
Il y a une succession de leurs démarches blanches et de prénoms que l'on entend. Vous savez, Philippine, Lola, Louis, Liana. Karine Lemarchand, vous savez, la productrice, la présentatrice de l'émission L'amour est dans le pré, lors d'une discussion sur ses réseaux sociaux, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit, si je prends la parole sur la petite Liana, sur le petit Louis, c'est parce que je suis radical. Voilà ce qu'elle dit. Tu enlèves la vie, on t'enlève la vie, dit Karine Lemarchand. Donc on voit à quoi elle fait allusion. Elle fait allusion à la peine de mort. Emmanuel Macron, le président de la République, a dit quelques mots à propos de ce débat que l'on voit agiter les réseaux sociaux et certains responsables politiques.
La peine de mort n'a jamais rendu une société plus sûre. Jamais. Parce qu'elle ne dissuade pas. C'est fou. Ça a été montré, observé, mesuré. La peine de mort n'a jamais eu la valeur dissuasive que certains pouvoirs, souvent autoritaires, qui la défendent, voudraient lui accorder.
Dans un sondage, les Français se disaient favorables au rétablissement de la peine de mort pour justement les meurtriers d'enfants. Vous êtes favorable à ça ?
Je l'ai proposé. Je l'ai proposé parce que je pense qu'il faut une échelle de peine. D'ailleurs, c'est quand même surréaliste de voir le président de la République qui fait voter l'euthanasie pour les anciens et les fragiles et qui s'oppose à la peine de mort pour les pédophiles et les criminels.
Mais c'est un choix volontaire.
C'est quand même extraordinaire.
C'est un choix personnel et volontaire.
Le même jour.
Oui, mais c'est un choix volontaire et personnel.
Non, mais c'est quand même extravagant. C'est
difficilement comparable.
C'est extravagant de voir que les délinquants, les criminels, les violeurs, ils veulent les protéger, mais les vieux qui seront trop chers, ils veulent les tuer.
Ce n'est pas dissuasif, la peine de mort.
Alors, on n'en sait rien que ce n'est pas dissuasif. On n'en sait rien. Ça, c'est la grande...
Du temps où elle existait, il y avait quand même des crimes de sang.
Mais là, il n'y en a pas plus. Et est-ce que vous croyez que la société a payé la prison à vie pour le meurtrier de Liana ? Moi, je veux un référendum.
D'ailleurs, Karine Lemarchand.
Alors, je veux un référendum sur la peine de mort. Les Français n'ont pas été consultés pour l'abrogation de la peine de mort. Les Français n'ont pas
C'était en 1980.
C'était dans le programme de François Mitterrand.
Oui, mais il n'y a pas eu de référendum.
Moi, je vais être très franc. Son programme, donc ça valait
référendum. Je propose, et ça sera dans mon projet présidentiel, un référendum sur la peine de mort. Si les Français sont sensibles aux arguments du chef de l'État et à tous ceux qui nous répètent depuis des années que la peine de mort ne sert à rien, eh ben, ils voteront non. S'ils pensent comme moi qu'à un moment, il faut que celui qui va tuer un gamin, violer une fille, la tuer, souvent récidiviste.
Alors c'est la peine de mort pour tous. Vous mettez des crimes en...
Je pense qu'il faut le réserver aujourd'hui, meurtrier d'enfants et terroriste.
D'accord.
Parce que je trouve scandaleux qu'on entretienne dans nos prisons l'un des meurtriers du Bataclan.
Alors,
et on va le garder en prison et les Français vont payer ça pendant 50 ans.
Docteur Léna et Maître Lajoigny.
Franchement.
Deux choses. Peine de mort, on en reparle chaque fois que la France est submergée par l'émotion devant un phénomène comme ce qui vient de se passer. On ne légifère pas sous le coup de l'émotion. C'est pas une bonne idée.
C'est pour ça qu'il faut
la deuxième, la première chose, c'est que la peine de mort, c'est le contraire de la justice. C'est la vengeance. Et que on peut pas être à la fois pour la justice et pour la vengeance. La justice se substitue à la vengeance. D'autre part, je suis médecin, je suis un partisan de ce qui est vivant et par conséquent, je suis contre la peine de mort. Et je suis content de vous le dire en face.
Maître Lajoie.
Bien. Deuxièmement...
Les Français devront trancher.
Mais les Français ont tranché.
Non, ils n'ont pas tranché.
Ils voté pour François Mitterrand, qu'il avait mis dans son
programme. Mais là, les Français, quand on les interroge dans un sondage, ils sont pour le retour.
68%.
Hein. Donc, ils ont évolué.
On verra si ceux qui...
Référendum. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne voulez même pas un référendum.
Mais en fait, il y a des élections.
C'est-à-dire que
on verra si vous êtes élu. On verra si ceux qui sont pour le rétablissement de la peine de mort sont élus.
Je vous en prie.
Et ensuite, simplement, c'est quand même à vous de faire la preuve que c'est dissuasif. Et il n'y a pas une seule étude qui a démontré que la peine de mort dissuade. Moi, ça fait 10 ans que je suis avocat. On n'a jamais vu quelqu'un se dire, ah ben, en fait, hier, c'était puni de 10 ans, demain, c'est puni de 20 ans. Donc, c'est tellement puni que je ne vais pas réitérer. La peine de mort n'a jamais dissuasé personne.
Mais vous n'en savez rien.
Bah, vous non plus. En tout cas, vous n'avez pas de preuves
plus que vous.
Mais l'argument de Nicolas Dupont-Aignan, c'est de dire, comme ça, on ne paye pas à vie quelqu'un en prison.
Moi, j'ai pas envie de payer à vie pour un crime.
On s'en débarrasse.
Mais alors, dans ces cas, il n'y a plus de justice.
Mais
c'est qu'à un moment, on n'est pas dans la vengeance, on est dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est pas la loi du talion. C'est pas ce que dit Karine Lemarchand. Bah,
ça veut dire que ce serait un tribunal qui prononcerait
Mais attendez, deux choses.
Mais c'est la loi du talion.
Non.
On a pris la vie de quelqu'un, on va donc
l'état. Et les erreurs judiciaires. Et les erreurs judiciaires.
Attendez. Elles ne sont pas réparables avec la peine de mort.
Loïc Séché, procès en révision. S'il y avait eu la peine de mort, un innocent serait décédé. Voilà. Christian Iacono, un ancien élu de la République, s'il n'y avait pas eu de procès en révision, s'il y avait eu la peine de mort, un innocent serait décédé.
Patrick Dils.
Exactement.
Alors, mais pardon.
Attendez. C'est irréversible. Deux choses. D'abord, c'est quand même extraordinaire qu'on plaigne toujours les bourreaux et jamais les victimes.
Mais là, on parle d'innocents.
Non, je ne parle pas de ça. Je parle de... C'est quand même extravagant que dans notre pays, immédiatement, on nous parle de ça. Et deuxième point, la vengeance. La vengeance, ça va être la conséquence de l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un moment, les Français vont se faire justice eux-mêmes. Puisque
c'est ce qui s'est passé.
Pas
il y a un cas célèbre.
La justice n'est plus capable.
Pardon, il y a un cas célèbre, Nicolas Dupont-Aignan. c'est l'affaire Grégory.
Oui,
où Grégory, le père Jean-Marie Vimin a tué Bernard Laroche parce qu'il le soupçonnait d'être l'auteur de la mort de son fils. Or, à date, on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory. Donc, vous voyez, il s'est fait justice lui-même
parce que
et ça n'a pas résolu l'affaire.
C'est une affaire grave. Moi, j'ai jamais dit que la peine de mort allait tout résoudre. C'est pas vrai. Je dis que dans une société qui, à un moment...
Ça ne résout pas, on se débarrasse de parasites, c'est ce que vous dites.
Je ne dis pas que ça va résoudre tout. C'est de rétablir une échelle de peine. Et dans mon projet, il y a 18 mesures dont la peine de mort est à l'échelon supérieur, dans des cas ultimes où la société décide, de se débarrasser de tueurs malfaisants. Et si on ne le fait pas, la vengeance viendra. La vengeance, ce serait de laisser chacun... avoir la loi du talion, mais au terme d'un procès équitable avec des vérifications.
D'accord.
Il est important maintenant de changer. Si les Français ne veulent pas, ils le choisiront.
C'est intéressant avec référendum. Ce débat sur le retour de la peine de mort des années après, c'est que on voit que les Français ne font pas confiance à cette justice. Ils la trouvent trop laxiste. C'est ça que ça dit en fait ce débat sur le retour de la peine de mort. Est-ce que quand même les autorités en ont conscience, même si Emmanuel Macron a très fermement dit que la peine de mort n'était pas dissuasive et qu'elle n'était pas efficace en fait en quelque sorte.
Cette explication d'Emmanuel Macron, elle arrive dans un discours qui a duré un certain temps. C'était hier après-midi à l'occasion du Congrès mondial contre la peine de mort. Donc, il a eu l'occasion d'en parler longuement. Et à un autre moment de son discours, il fait le lien entre les débats, je cite, de ces dernières semaines. Donc, lui, il sait que cette question et ce sujet si sensible, il revient aussi parce que le pays est sous le choc depuis plusieurs semaines.
Notamment avec la mort de la petite Liana.
Avec l'affaire Liana. Notamment. Donc évidemment que le président de la République y fait le lien. Il ne répond pas directement aux propos de Karine Le Marchand, on l'a bien compris, même si forcément, alors que cette expression de cette personnalité médiatique populaire intervient 24 heures avant, on a du mal à ne pas faire le lien entre ce propos d'Emmanuel Macron et ce propos de Karine Le Marchand. Dans un autre passage de son discours, le chef de l'État dit que évidemment, il est pour une justice plus ferme, la plus ferme possible, mais il défend absolument le principe de ne pas revenir en arrière sur ce point. Un combat existentiel pour les sociétés démocratiques, dit-il.
Merci d'avoir participé à cette... Un dernier mot, docteur.
Oui. L'histoire qu'on a entendue tout à l'heure de cette mère qui a eu cet enfant à 15 ans et dont le fils est un assassin, ou un supposé accusé d'assassinat. Imaginons que la loi aille dans votre sens, que demain, ce garçon puisse être condamné à mort. Ça veut dire que ce garçon, qui n'existait pas, sa mère a dénié son existence, c'était un déni de grossesse. Ce garçon que sa mère ne reconnaissait pas quand on lui a présenté à la maternité, il n'existait pas, on va le renvoyer à son inexistence en lui tranchant la gorge.
Mais c'est vous ça savez très vous bien proposez. Que dans un cas comme ça, il n'y aurait pas la peine de mort puisque c'est une action collective.
Ça sert à rien. Ça ne sert à rien.
La peine de mort, c'est pour des cas extrêmes comme le violeur de Liana. Franchement,
non.